Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Retrouvez l'invité de la séance live.
Et pour nous parler d'un superbe festival qui ouvre ses portes justement demain 4 octobre jusqu'au 8 octobre à Châlons en Champagne, j'ai le plaisir de recevoir son organisateur, son délégué général et programmateur, c'est Philippe Bachmann. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, je suis ravie de vous recevoir pour War on Screen, désolé de mon anglais.
Bravo.
C'est la cinquième édition. Alors dites-nous tout, comment est né et quand est né ce festival ?
C'est un festival qui est encore tout jeune, puisque c'est la cinquième édition, la première était en 2013. On a créé ça à partir d'un double constat à l'époque, qui était que la région Champagne-Ardenne, dans laquelle la scène nationale que je dirige, qui est donc un théâtre, la Champagne-Ardenne était la seule région de France à ne pas avoir de festival de cinéma d'ampleur. Donc ça faisait un grand trou noir, parce que les CNC identifient à peu près 200 à 300 festivals importants de cinéma en France. Il n'y en avait aucun dans cette région, donc on s'est dit que ça valait quand même le coup de répondre à ce manque.
Et alors du coup, comment s'est fait le pont entre le théâtre et le cinéma ?
Parce qu'on avait déjà ouvert en fait une salle de cinéma dans la scène nationale, donc on est à Cinéma RSA depuis une dizaine d'années. Et puis qu'il y avait un souhait de plusieurs collectivités de créer un événement en fait, un événement qui soit à l'image de l'identité du territoire. Donc, je suis parti sur cette idée de festival de cinéma, parce qu'il n'y en avait pas. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, on n'a pas dit grand-chose, parce que des festivals de cinéma, justement, comme il y en a beaucoup, ben, il faut trouver un sur une thématique où il n'y a pas grand-chose. On n'allait pas faire le énième festival de cinéma fantastique ou de polar, ou ça existe déjà et de manière superbe. Et curieusement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun festival en Europe même, de cinéma. Il y a des tas de manifestations sur les représentations de la guerre, le photo-reportage, etc., mais le reportage de guerre, mais pas sur le cinéma. Et donc, comme le territoire, malheureusement, depuis 2000 ans, le candidat Attila, par exemple, est à 15 km de Châlons, et évidemment, Première Guerre mondiale, les guerres de la Révolution française, ça, tout le monde est passé par là, donc il y avait une réalité du territoire, et on s'est dit que...
Il y avait un peu une évidence, quoi. Ouais, le territoire a parlé de lui-même.
Voilà. Et du coup, on a monté ça, et en plus, on s'est rendu compte que c'était un objet cinématographique qui était extrêmement large et beaucoup plus varié qu'on pouvait l'imaginer au départ.
Alors du coup, comment on présente, alors on crée le dossier de War on Screen, mais du coup, comment vous l'avez amené pour que ce soit un festival qui reste, malgré son sujet, positif ?
D'abord parce que c'est avant tout un festival de cinéma, c'est pas un festival ni d'histoire, ni de géopolitique, ni de reportage, c'est vraiment un festival de cinéma, donc c'est vraiment le point de vue d'artiste. Et ensuite parce que c'est le moyen de parler, non pas positivement d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas positivement de la guerre, en revanche, les cinéastes sont ceux qui sont le plus à même, enfin, les cinéastes, comme beaucoup d'artistes, d'amener un regard différent et d'amener à la fois à mieux comprendre et certainement à essayer de faire en sorte que ces événements-là soient le mieux décryptés possible et sans doute peut poser sa petite pierre pour que ce soit pas reproduit, pas reproductible.
Oui, positivement dans le sens faire évoluer les consciences en fait.
Voilà, tout à fait. Mais c'est pas pour autant non plus un festival didactique. Hein. Il y a des comédies. La première année, par exemple, on avait fait une grande rétrospective sur Rire de la guerre. Avec une quinzaine de comédies, puis chaque année on se rend compte que dans nos rétrospectives il y a toujours plein de comédies. C'est pas non plus un festival de comédies, parce qu'il y en a, mais il y a plein d'autres types de films. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'avec un sujet comme celui-là, on arrive à avoir une diversité finalement de films qui est absolument considérable. Peut-être plus que sur d'autres thématiques, paradoxalement.
Et alors du coup, vous, tout de suite c'est parti sur des films aussi en compétition ?
Tout de suite, on n'a pas fait d'édition zéro, c'est-à-dire que dès la première édition, on voulait que ce soit le format qui serait le format permanent du festival, donc 5 jours sans film, 2 compétitions, une compétition long métrage avec 10 longs métrages inédits de l'année, et 15 courts-métrages, une quinzaine à peu près de courts-métrages, pareil, inédits de l'année, un jury professionnel international pour le court-métrage, un jury lycéen un jury professionnel international, pour le court, un jury lycéen, et puis après on a affiné, on a rajouté plein de choses, et puis autour de ça, des rétrospectives, des séances spéciales,
des séances jeunes publics aussi.
Des jeunes publics, dès le départ. Donc dès le départ, il y avait tous les ingrédients. Ce qu'on a fait, en revanche, c'est qu'on a... D'une part, on a apprivoisé notre thématique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une compréhension nous-mêmes, hein, la programmation beaucoup plus approfondie de la variété de notre sujet. Et puis, on est allé sur des secteurs sur lesquels on n'allait pas avant. Il y a plein de nouveautés qui s'agrègent d'année en année.
D'accord, donc ça s'est peaufiné au fur et à mesure.
Voilà, et ça continue.
Et ça continue. Alors, cette cinquième édition, alors elle est sous quel signe ?
Alors, il y a je dirais, deux signes principaux. Le premier, c'est la continuité par rapport au début, donc c'est-à-dire la variété. Et puis le deuxième, je dirais que c'est sur la nouveauté. Sur la nouveauté, on a deux, trois choses. La première, c'est qu'on creuse de plus en plus sur la jeunesse. Mm-hmm. Cette thématique de la jeunesse et le fait d'impliquer les jeunes. Le deuxième point, c'est qu'on a deux nouveautés thématiques. L'une, en termes de support et de format, c'est qu'on va vraiment sur un secteur dans lequel qui nous intrigue depuis le début, mais on ne savait pas trop comment l'aborder, c'est celui de la série télévisée.
D'accord.
Et ensuite, celui de la réalité virtuelle.
Ah oui.
On a donc aussi. Donc ça, c'est vraiment les grandes nouveautés de cette édition-là. En dehors de tout le reste, qui est le cinéma... plus classique.
Et alors du coup, qui peut participer à la compétition ?
Tous les films qui sont sur notre thématique, encore une fois dans une conception vraiment très 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 ouverte, et qui ne sont pas sortis en France, encore sur les écrans.
D'accord, donc c'est... Oui, qui peut-être n'ont pas de distributeur aussi, peut-être aussi.
Voilà, alors il y a la plupart des films ont déjà des distributeurs, mais il y en a qui n'ont pas encore de distributeur en France, par exemple.
C'est aussi l'idée de mettre un pied à l'étrier ?
Oui, l'idée c'est d'être un endroit de découverte, que le public puisse découvrir des films qui n'ont pas encore été vus en France, pas de manière commerciale, donc qui n'ont pas encore de distributeurs, ou qui vont sortir, il y a des films qui vont sortir dans le mois par exemple, qu'on présente, il y en a qui vont sortir dans les 6 mois, et puis il y en a qui vont sortir peut-être dans 1 an et demi ou 2.
Et alors du coup, vous êtes combien à les avoir choisis ? Est-ce que depuis ces 5 ans, il y en a de plus en plus qui vous sont présentés pour la compétition ?
Ah oui, clairement, il y a une évolution absolument considérable. En termes d'équipe de programmation, pour répondre à votre question, on est 3. Mm-hmm. Il y a moi-même, Olivier Broche et Hervé Bougon. Donc on se répartit les tâches à la fois sur les compétitions et les rétrospectives. Et on travaille vraiment de concert pour choisir ensemble ces thématiques de rétrospectives qu'on dresse chaque année. Et ensuite, en termes de ce qu'on reçoit, oui, c'est-à-dire que le festival progressivement a une place sur le marché international, et donc on reçoit des films un peu partout dans le monde. On va aussi en dénicher ailleurs, dans certains marchés, un peu partout dans le monde aussi. Et on voit qu'on nous propose de plus en plus de choses. Et là où nous-mêmes, on était en train d'apprivoiser notre thématique, bah, les cinéastes et les producteurs et les distributeurs font la même chose et nous proposent des films qu'ils n'auraient pas forcément proposés au début.
D'accord, du coup ça a créé de la création.
Tout à fait,
ça a amené la création.
Ça a amené la création et on va au-delà puisqu'on fait même un peu de production, puisque par exemple sur la réalité virtuelle, c'est un film dont on va produire nous la version française, un film australien qui est absolument splendide, est extrêmement émouvant sur un aborigène qui raconte son histoire et sa rencontre avec la bombe atomique dans les années 50. C'est filmé en réalité virtuelle, donc on est immergé dans l'image, dans le désert australien à 360 degrés, les paysages sont absolument splendides. Et son histoire à lui est absolument bouleversante et c'est très très beau puisque ce regard d'un aborigène est tellement distancié par rapport à la manière dont nous en Occident on voit le monde, que ça fait aussi un bien fou d'avoir ce recul-là. Et ça, on en produit la version française. Donc on va même jusqu'à la production et après au soutien à la diffusion. Et c'est quelque chose qu'on va creuser.
Ah oui, ça a bien évolué quand même.
Oui, il y a d'autres secteurs d'ailleurs sur lesquels on fait de la production. J'en veux pour preuve qu'il y a l'année dernière on a passé commande d'un ciné-concert au superbe accordéoniste Vincent Perani. Mm-hmm. Et donc ce qu'on a créé l'an passé se diffuse depuis l'année dernière. Donc c'est un film des années 20 qu'on a redécouvert qui s'appelle L'heure suprême de Franck Borzage et qui se diffuse cette année. Il sera à Grenoble, à Quimper, à Château-Vallon, à côté de Toulon, à Valence. Enfin voilà, on diffuse aussi nos propres productions.
Un invité d'honneur également cette année, comme tous les ans.
Comme tous les ans, et cette année on a la chance de pouvoir combiner un invité qui sera à la fois président du jury international et dont on va présenter une rétrospective, et ce sera La guerre vue par István Szabó, qui est le premier réalisateur hongrois à avoir eu l'Oscar du meilleur film étranger en 81, qui a été plusieurs fois primé à Cannes ou à Berlin, qui est un immense réalisateur. Le grand public connaît pas forcément, parce qu'on connaît souvent moins les noms des réalisateurs que ceux des comédiens ou des comédiennes qui les incarnent, qui incarnent leurs films. Mais c'est vraiment un honneur pour nous, parce que ça fait partie de ces réalisateurs, aujourd'hui un peu plus de 75 ans, mais toute sa carrière est traversée par l'image de la guerre. Et c'est très emblématique de ce qu'on aime et ce qu'on veut développer dans le festival, parce que la guerre est parfois très éloignée de son sujet, mais elle est présente en filigrane. Et puis parfois, elle est le sujet premier, hein, notamment dans sa grande trilogie qui l'a amené à avoir cet Oscar, à être primé à Cannes et à Berlin. Mephisto, le colonel Redel et Anusen, avec des grands comédiens comme Harvey Keitel ou Klaus Maria Brandauer. C'est vraiment un immense réalisateur, et donc il sera là pendant toute la durée du festival.
Il a dit oui direct.
Voilà. Oui, ça le passionne. Il y a deux ans, on avait Roland Joffé, pareil, multi-oscarisé pour Mission et pour La Déchirure, Mission avec Robert De Niro, etc. Tout de suite, il a été vraiment enthousiaste parce que l'originalité du sujet amène une curiosité très forte, et du coup, effectivement, une reconnaissance de leur œuvre à un endroit qu'ils n'attendent pas forcément. Et donc ça, c'est quelque chose auquel ils sont très sensibles. Ouais.
Vous avez vu juste, il y a 5 ans.
Voilà.
Vous avez tapé dans le mille.
Bonne intuition, on en est content. Mais le public est de plus en plus nombreux.
Donc plein de choses à découvrir, des cartes blanches donc, sur ces fameuses séries. Mmh. La part jeune public également, la réalité virtuelle, c'est quand même un gros pari ça aussi.
C'est un gros pari, et contrairement à la 3D qui n'a jamais vraiment démarré, la réalité virtuelle est quelque chose qui démarre très très fort et qui dans l'avenir va vraiment se développer dans le monde de l'audiovisuel.
Parce que ça vous a demandé forcément d'agencer les choses différemment pour le festival.
Ah là, on a une salle qui est dédiée à ça, avec des groupes de 7 personnes qui toutes les demi-heures permutent, puisque on voit ça dans les téléphones, on est vraiment complètement immergé dans l'image. Donc c'est une expérience à la fois individuelle et un petit peu collective, puisqu'on organise ça par petits groupes.
Mais oui, parce que du coup, ça dure pas une heure, il faut bien prévenir les gens que c'est pas des films qui durent une heure.
Les films en réalité virtuelle sont des films courts. On peut pas rester longtemps d'ailleurs en réalité virtuelle, parce que sinon on a des gens qui perdent leurs repères, hein, quand on est immergé comme ça longtemps dans des images. Mais donc là, c'est un film de 17 minutes. Qu'à peu près ce qu'on peut faire de plus long en réalité virtuelle. Mais c'est vraiment magnifique, ce film-là, il est nominé aux Emmy Awards à New York, donc on est très fiers d'en être le producteur français et de pouvoir présenter cette œuvre somptueuse.
Félicitations, en tout cas, et nous on est très fiers d'en parler aussi sur Séance Radio.
Merci,
un petit mot sur la compétition internationale et la de court-métrage et de long-métrage et de votre jury.
Mm-hmm. Alors, le jury, donc, le jury international, il est présidé par István Szabó, j'en ai parlé. Les autres membres, c'est Pierre Razamoela, donc, qui est directeur adjoint de Orange Studio. C'est toujours important d'avoir quelqu'un de la production. Et Orange Studio est un acteur important de la production qui se développe aussi de manière considérable. On a Marie Kremer, que normalement tout le monde connaît parce que c'est l'une des principales actrices du Village français. Donc, c'était aussi un autre clin d'œil aux séries et une grande série française. On a Christian Volkmann, qui est à la fois un réalisateur d'animation et un plasticien, auquel on a d'ailleurs aussi commandé une œuvre, qui a réalisé un film qui avait énormément marché il y a quelques années, qui s'appelait Renaissance, un film d'animation. Et le jury, on a un jury d'étudiants, qui est composé d'étudiants de Sciences Po et d'étudiants de l'École des Arts et Métiers. Et donc c'est pour le jury, puis un jury lycéen qui est présidé par Stella Rivaz, qui est à la fois réalisatrice et comédienne.
Donc il y a aussi des femmes.
Il y a aussi
Puisque
des
vous
femmes.
Êtes trois garçons à choisir les films dans l'année.
On est trois garçons à choisir les films, la coordinatrice générale est une femme.
Ah d'accord.
On alterne une présidence féminine et une présidence masculine. On essaie de jouer la parité. La première présidente, c'était Yama Bass, du festival, première édition. L'année dernière, c'était Muriel Coulin. Donc on essaie d'alterner, voilà. Mais alors curieusement, d'ailleurs, je vais faire un petit aveu là-dessus, c'est qu'on a plus de mal à avoir dans le jury un intérêt féminin, parce qu'il y a une espèce de réflexe de prime abord qui est « Oh, ouais, bah, c'est pas pour moi, ce sujet-là va pas me concerner ». Et donc nous, on est obligé de faire œuvre de pédagogie pour dire « Mais attention, c'est absolument pas le festival du film de guerre ». Et alors là, ça marche, mais il y a une espèce de petite difficulté de notre part, puisqu'on a plus de mal à intéresser parfois certaines professionnelles par rapport à certains professionnels.
Donc, est-ce que ce serait à cause du titre
femmes, mais bon, je sais pas. Le titre, on l'a voulu en anglais dès le départ, parce que quand on crée un festival, bah, faut tout de suite trouver sa place sur le plan international. Mmh. L'anglais parlait plus en plus vite quand on allait sur les marchés de films internationaux. C'était plus facile pour nous. Mais oui, non. Pour nous, il y a un enjeu là. C'est d'abord, même quand on parle de réalisation, si on fait film lié à la guerre et réalisatrice, il y en a quelques-unes. Il y a Catherine Bigelow, qui avait réalisé aussi Portier de nuit. Son nom m'échappe là, mais je l'ai sur le bout de la langue. Mais bref, il y a un certain nombre de réalisatrices emblématiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc la première année, Yama Bass, qui était une réalisatrice et une actrice palestinienne, qui a réalisé un film de guerre. Muriel Coulin l'an passé, parce qu'elle avait réalisé avec sa sœur Delphine Voir des pays, qui est un très beau film, qui a eu le prix du scénario Un certain regard à Cannes, qui est une réalisatrice aussi, mais c'est plus rare.
D'accord.
Plus rare. Donc on serait ravis qu'il y ait plus de femmes.
Angelina Jolie pour son prochain film, peut-être.
Voilà, peut-être. Ça fait partie des réalisatrices. En tout cas, effectivement, ces deux premiers films sont des films de guerre. Non, pour l'instant, Angelina Jolie n'est pas encore venue.
Je vous le souhaite, en tout cas. Voilà. War on Screen, un petit mot sur l'affiche, quand même.
Ouais.
Parce qu'elle est magnifique, avec ce pop-corn.
Bah oui, merci. On a souhaité, on essaie toujours de détourner un petit peu l'image, le réflexe que les gens pourraient avoir en pensant à ça. Et donc là, cette explosion atomique un peu stylisée avec des pop-corns est assez emblématique de l'image qu'on veut donner du festival. Toujours un peu décalé, avec un regard qui n'est pas directement branché sur l'actualité, mais qui est volontairement un petit peu décalé. C'est ce que permettent les cinéastes par rapport aux reporters, etc. C'est d'avoir ce décalage dans le temps et de pouvoir parler de manière plus libre, forcément, avec une dramaturgie plus sophistiquée, d'événements qui parfois sont, enfin qui sont souvent tragiques, mais qu'on peut soit détourner, soit aborder, en tout cas de manière pas frontale, contrairement au reportage. Et ça, c'est ce qui est passionnant dans le festival.
C'est la patte artistique des réalisateurs et réalisatrices qui participent en tout cas à ce festival War on Screen. C'est dans les salles.
Oui,
dans vos salles à partir du 4 et jusqu'au 8 octobre. C'est la 5e édition. Ouverture demain. Comment vous vous sentez et qu'est-ce qui va se passer pour l'ouverture?
On se sent impatient, on a faim. Pour l'ouverture, donc on a, comme toujours dans les festivals, le festival commence le matin, mais la cérémonie d'ouverture est le soir. C'est toujours un peu étonnant, mais c'est comme ça dans un festival. Et on a donc la présentation de l'ensemble de la programmation, et puis on ouvre officiellement avec d'une part l'inauguration de ce film exposition de Christian Volkmann, et puis l'avant-première du festival du film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut.
Merci beaucoup Philippe. Avant de se quitter, si vous deviez dire à un ami ou une amie viens découvrir War on Screen, vous diriez quoi?
Viens boire une petite coupe de champagne.
Avec modération alors.
Avec modération, bien évidemment.
Merci beaucoup Philippe et un excellent festival.
Merci
voilà,
beaucoup,
ça démarre
beaucoup.
Demain jusqu'au 8 octobre et on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la semaine sur Séance Radio. Merci beaucoup, à très vite.
Merci, à bientôt.
De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.